Bonjour à tous, nous sommes réunis pour un show de vent, retour Europe Tour avec Lucas Brasier. Souvenez-vous, il y a quelques mois, on vous parlait d'un défi Europe Tour assez fou qu'avait décidé de faire Lucas Brasier. Bonjour Lucas.
Bonjour Vanessa.
Tu l'as réalisé, ton Europe Tour.
Eh oui.
Tu es parti, tu as fait 4500 kilomètres pendant un mois en stop.
C'est ça. En fait, le défi, c'était du coup traverser l'Europe en stop d'ouest en est, de Lisbonne au Portugal jusqu'à Tallinn en Estonie. Et au final, 4500 kilomètres, c'est ce que j'avais annoncé et ce que je pensais faire en ligne droite. J'en ai fait un peu plus de 6000 finalement.
C'est ça.
Et oui, ce défi... Eurostop m'a permis donc de traverser l'Europe en stop, de rencontrer des dizaines et des dizaines de personnes et prendre des dizaines et des dizaines de moyens de transport, traverser 11 ou 12 pays, enfin une aventure humaine assez folle.
Hugo, bonjour Hugo.
Et bonjour.
Va nous parler un peu de toi.
Voilà, il s'est lancé le 1er août 2024, si je me trompe pas. Ce Toulousain de 24 ans, il est parti dans un long périple à travers l'Europe. En un mois, il a traversé 10 pays, a effectué plus de 4500 kilomètres. Le tout, évidemment, en solitaire et uniquement, comme il a dit, en autostop. Il a visité le Portugal, l'Espagne, la France, la Suisse, l'Allemagne, la République tchèque, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, avant de boucler son périple en Estonie. Il a, c'est ça?
C'est ça. En fait, ça, c'était ce que j'avais prévu. Il y a okay. Juste eu un changement au final avec ce que je pensais. C'est que mon trajet ne m'a pas amené en Suisse et m'a amené plutôt aux Pays-Bas. Et après, je suis redescendu. Mais c'est exactement ça.
C'est ce que tu voulais faire.
C'est ça. Enfin, là où les voitures m'ont emmené et m'ont porté.
C'est vrai que, voilà, comme il va nous l'expliquer, mais c'est vrai que ses craintes au début, c'était le fait d'être hébergé au maximum par les locaux, le fait de pas rester bloqué dans un pays à cause d'un problème quelconque, de frontière ou autre. Est-ce qu'au final, ça s'est bien passé comme tu le souhaites ou il y a eu des problèmes au fil du temps?
Oh oui, bah, il y a eu des hauts et il y a eu des bas, en vrai, il y a eu de tout. C'est-à-dire que il y a des choses qui se sont très bien passées, des pays qui se sont enchaînés de manière assez fluide, et il y en a d'autres où je suis resté jusqu'à 24 heures sur la même station. Alors quand je dis 24 heures, c'est que le soir même après, je me souviens, je sais plus si c'était vers la Pologne ou la République tchèque, mais il y a une frontière où il y a quelqu'un qui me pose à une station essence, il m'y pose vers 15 heures à peu près. Et j'essaye de trouver des moyens de transport pour passer au pays d'après. Et il y en a aucun qui veut me prendre. Tous me disent qu'ils vont dans l'autre sens parce que c'était une station assez particulière. Elle n'était pas le long de l'autoroute. Elle était sous format un petit peu comme un 8. Donc les deux côtés pouvaient y accéder. Et je vais y rester de ce jour-là jusqu'à 15h, jusqu'au lendemain 17h. Et le soir, je vais marcher 5 km pour aller au premier village et trouver le seul booking.com qu'il y a dans ce petit village de 100 ou 200 habitants où il y a un supermarché où je vais faire mes courses et personne. Enfin, il y a des expériences comme ça un peu originales et d'autres où tout s'enchaîne très bien, on garde contact avec des gens et c'est formidable.
Alors moi, je voudrais revenir au début parce que tu nous avais dit à l'antenne que tu n'avais jamais fait de stop.
C'est
et
ça.
Que tu ne voulais pas en faire avant le début du défi. Comment ça s'est passé la toute première voiture, la première fois que t'as fait du stop? Explique-nous un peu, parce que moi je suis très très curieuse de savoir.
C'est ça, pour déjà expliquer un peu les coulisses, c'est vrai que j'hésitais à faire un premier trajet d'entraînement, où je m'étais dit peut-être je vais faire trois projets de stop, et le troisième ce sera l'Europe en stop. Et le premier je m'étais dit Toulouse-Paris, et après deux autres. Et au final je me suis dit non, on va sauter dans le grand bain en partant de zéro, quoi, en commençant de rien. Et du coup, je me souviens très bien de ce premier jour de stop. Donc déjà, pour mettre un peu de contexte, j'arrive, comme tu l'as dit Hugo, le 1er août à Lisbonne. Je mets une story pour dire que j'y suis. Et là, j'apprends que j'ai un abonné qui est à Lisbonne aussi, qui habite. Et il me dit, écoute, je peux pas t'héberger, mais j'ai un ami à moi qui peut t'héberger. Et je me retrouve à dormir chez le pote d'un abonné, qui du coup ne me connaît pas, ce pote-là, et qui me donne, dès que j'arrive chez lui, le double de ses clés, et qui me dit, bah tiens... Voilà, là il y a le frigo, là il y a la douche, vite à vie, y a pas de souci, je te connais pas, mais have fun à Lisbonne, quoi.
Ils sont cool à Lisbonne.
Ah ouais, non mais trop. En fait, quelqu'un qui avait très l'esprit centré sur le voyage, le partage, le donner sans rien attendre. Et pour l'anecdote, il ne savait pas que je venais de Toulouse, mais trois semaines plus tard, pendant que je faisais l'Europe en stop, il allait aller à Toulouse pour un mariage. Et je lui dis, bah écoute, tu me connais pas, tu m'accueilles chez toi et tout. Tiens, c'est le double de mes clés. Dans trois semaines, moi je serai pas rentré. Va chez moi avec ton pote. Vous y passez deux trois jours comme vous voulez. Tu mets les clés dans la boîte aux lettres et puis voilà. Et du coup, on s'est rendu service mutuellement. Et donc, sur ces premiers jours, je vois des potes de lycée aussi qui étaient à Lisbonne comme par hasard à ce moment-là. Donc, j'avais pas vu depuis 5-6 ans. Donc ça, c'est jour 1, jour 2. Et jour 3, on arrive à ce fameux point où c'est ma première journée de stop. Et là, bah, je sais pas trop où me mettre pour cette première journée de stop. Donc je regarde un peu la carte, je regarde ce qui a l'air de m'inspirer. Je me souviens de tous les conseils que j'ai demandé, parce que j'ai fait pas mal de podcasts avec des gens. Quelqu'un qui a fait Paris-Pékin en stop. Une fille qui est allée de Lyon jusqu'en Norvège ou Suède toute seule en stop, Robin qui a fait 15 000 km de stop en Europe, enfin des gens qui ont une sacrée expérience dans le domaine. Et donc je me mets à cette sortie et j'y vais à une station essence qui est un petit peu avant, qui est dans la ville. Je demande à 10 personnes, en 10 minutes je prends 10 refus, je me dis bon bah c'est le début de l'aventure, et j'arrive à un rond-point. Et après ce rond-point, il y a deux voies qui vont dans la même direction. Il y en a une qui redescend et une qui monte sur un pont. Celle qui redescend repart dans la ville et côté trottoir. Et celle qui est sur le côté gauche passe sur un pont et va dans la direction où je veux, c'est-à-dire part à l'extérieur de la ville et va du coup là où je veux aller, c'est-à-dire vers l'Est, vers l'Espagne, puis vers la France, puis lance l'aventure. Et je me retrouve du coup à faire du stop côté trottoir, enfin sur le trottoir côté qui ramène vers la ville. Donc ça veut dire que je m'en rends pas compte à ce moment-là, mais il faut qu'il y ait une personne qui soit sur la voie de gauche, qui me voit faire du stop avec mon pouce, j'ai pas de pancarte à ce moment-là, qui se dise tiens, il y a quelqu'un qui fait du stop, je vais changer de voie, mettre mon clignotant, m'arrêter, discuter avec lui, accepter qu'il monte dans ma voiture, repartir sur la voie de gauche et rerouler. C'est complètement utopique, mais je fais ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Il n'y a rien qui se passe, bien évidemment. Et je commence à me dire, ça se trouve, bah, j'ai fait le mauvais choix, quoi. J'aurais pas dû me lancer dans l'Europe en stop, c'est trop dur. J'aurais dû commencer plus simple, je vais pas y arriver. Je commence jour 3, parce que j'ai profité avec mes potes deux jours avant, mais j'aurais dû commencer jour 1, parce que ça se trouve, jour 3, enfin jour 5, j'y serai encore. Et en face de moi, on le voit sur les images, parce que j'ai fait des vlogs quotidiens sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube, donc c'est lucas.brasier. lucas.brasier. On voit sur un des rushs que quand je suis en train de faire du stop, je suis en face d'une boutique de location de voiture, et il y a quelqu'un qui est assis devant cette boutique de location de voiture et qui me voit depuis une demi-heure et que je vois aussi. Et en bas du chemin dont je viens, il y a un rond-point. Soit j'y vais, il y a une pizzeria, j'ai demandé un couvercle de pizza et j'écris au marqueur la destination. Soit je vais parler à cette personne et je me dis bah tiens, je vais parler à cette personne. Et là j'arrive, je commence à discuter avec elle et je dis voilà, et là je me présente, je suis lancé un défi, traverser l'Europe en stop, aujourd'hui c'est mon premier jour de stop, j'ai jamais pris de voiture de stop, tout ça. Et on discute et je lui demande voilà, si vous allez vers l'Espagne, vers l'Est, est-ce que je peux monter avec vous? Elle dit faut que je demande à mon mari, moi il y a pas de souci, mais faut que je joue avec lui. Et là elle lui demande et ils acceptent, et c'est donc eux qui vont me permettre de faire mon premier trajet en voiture, et ils vont m'accompagner sur quand même 400 ou 600 kilomètres, et on va aller jusqu'à Toledo en Espagne.
Et c'est plus dur qu'on croit, hein.
Ah ouais. Bah en fait, ce qu'il y a de dur, c'est que c'est pas un travail qui est physique, comme quand on prépare une épreuve, un marathon, un semi-marathon, quelque chose. C'est que c'est beaucoup de résilience et de mental. C'est-à-dire que faut accepter d'être au bord de la route, de tout le temps sourire, de tout le temps être avenant avec les gens, et de se dire bah je vais prendre un vent. Et en fait, on prend littéralement par jour des centaines, même plus d'un millier de vents, de voitures qui passent, qui ne s'arrêtent pas, qui ne vous ignorent, comme quand vous êtes parfois malheureusement à la rue, etc., que vous essayez de demander de l'aide ou des sollicitations, parfois il y a des gens qui vous regardent avec dédain, qui se demandent mais pourquoi je vous aiderai, qu'est-ce que tu fais là, arrête, ça sert à rien de faire du stop. Les gens qui viennent vous parler, qui vous disent « Ah, je t'aurais bien aidé, mais je vais pas dans la bonne direction. » Et il faut que sur cet entonnoir de milliers de personnes que vous allez croiser, centaines qui vont vous regarder, dizaines qui vont vous considérer, et quelques personnes à qui vous allez adresser la parole, il y ait une personne qui vous dise « Oui, ok, je t'emmène dans cette direction. » Et pour traverser toute l'Europe en stop et faire ces 6000 kilomètres, il m'a fallu au total 32 voitures. Mmh. Donc 32 personnes qui disent oui sur 28 jours.
Ouais, c'est impressionnant quand même. Mmh. Tu te dis, c'est pas grand-chose, 32 personnes, mais en fait, ça fait, quoi.
Et c'est surtout, en fait, le concours de circonstances. C'est-à-dire que l'aventure est tellement aléatoire. Les seules choses qui ne sont pas aléatoires, c'est le point de départ et le point d'arrivée. C'est-à-dire, j'avais un décollage pour Lisbonne le 1er août, et j'avais pris un vol retour qui repartait de Tallinn en Estonie. Et ce qu'il y avait entre les deux, ça devait être en stop. Et en fait, à se dire, bah si je dis oui à telle voiture... ou non, ou si je reste un jour de plus là ou un jour de moins là, en fait à chaque fois ça change totalement le trajet, parce que les gens sont là à des instants précis de leur vie, et c'est juste que on se retrouve embarqué dans leur aventure, embarqué dans leur voiture, à partager un bout de chemin avec eux, et à quelques minutes, quelques heures près, quelques choix de décision de où on se met dans une sortie de ville, bah tout le reste de l'aventure est changé, parce qu'on se retrouve dans une autre ville plutôt que celle qu'on a faite, et avec un trajet totalement différent.
J'ai vu que tes abonnés, en fait, quand tu avais des moments, puisque moi j'ai suivi toute ton aventure, hein, on était derrière toi, on s'est dit, ouais, allez, vas-y, vas-y. Et j'ai vu que quand il y en a qui sentaient que tu lâchais prise, que tu baissais les bras, ils t'ont vu dans les vidéos, t'as pas menti, t'as pas montré que tout allait bien, tout ça, t'as montré vraiment l'envers du décor et t'as montré les phases difficiles. Et ça, franchement, je t'en remercie parce que tu nous as montré, voilà, que c'était pas si facile que ça et que c'était pas une télé-réalité, que c'était vraiment ta véritable aventure et c'est ce que t'avais vécu. Et moi, ce qui m'a touchée, c'est ces gens qui t'ont envoyé des tonnes de messages que j'ai pu lire, quelques-uns, alors pas tous, parce que je pense que t'as dû en recevoir plein sur les en privé, mais qui te disaient « Vas-y, courage, ça ira mieux demain, dors un peu, ça va aller mieux ». Alors tu les postais plus tard, mais ils étaient tout le temps là à suivre et à t'encourager.
C'est ça, ça a été vraiment une aventure humaine, moi en direct avec les gens que je rencontrais, mais aussi soutenue par les gens qui me suivaient sur les réseaux sociaux. Et comme tu l'as dit, j'ai partagé les hauts et les bas, parce que je trouvais ça important de partager tout, c'est-à-dire que les hauts, c'est pas intéressant. Les bas, celui qui revient beaucoup, dont on parle beaucoup quand je rencontre les gens, une scène qui les a marqués, c'est celle où, quand j'arrive à Toulouse, je me retrouve à devoir aller sur une aire d'autoroute qu'un abonné m'a conseillé. Et il me dit, tu peux aller à tel point GPS, tu coupes à travers champ, t'arrives à tel endroit, et là tu vas tout droit, t'arrives sur le... Vous savez, c'est les aires juste après les stations de péage où c'est même pas une aire de repos, c'est juste un petit virage où il y a un petit toilette maximum et ça fait un peu aire de covoiturage. Et en fait, je vais à son point GPS, je mets une heure et demie à rejoindre ce point. Et quand j'y arrive, je suis au milieu d'un champ, nulle part, il pleut un peu. Et en fait, je vois qu'il y a des grands murs de 2-3 mètres de haut en béton le long des autoroutes pour pas que les gens puissent y aller ou les animaux. Et c'est là que je me dis, mais en fait... ça va jamais, je vais jamais pouvoir rejoindre la route. Et je me retrouve à passer sous des barbelés à deux reprises, donc à ramper à plat ventre dans la boue avec mon sac à dos, ma casquette, toute ma tenue classique, à ramper dans la boue, à passer à travers les feuilles, à m'écorcher de partout, à devoir traverser un enclos de chevaux et avec la maison qui est juste collée à l'enclos. Donc c'est-à-dire si la personne sort et me voit traverser son enclos, c'est jamais ce qui peut se passer, mais bon, problème avec la police, ou ils nous tirent dessus, je sais pas, par peur. En plus, quand je traverse l'enclos, bah, les chevaux me courent dessus. Mm-hmm. Donc, je suis en mode, est-ce que je cours pour essayer d'aller plus vite que les chevaux? Est-ce que j'attends qu'ils me voient plus? Enfin, il y a plein de choses. Et en fait, quand j'arrive sur, après, être passé sous deux barbelés, avoir utilisé la pancarte carton que je connaissais utiliser pour écrire le texte, comme un peu un tapis pour passer en dessous, essayer d'un peu moins me salir, à me retrouver, à me changer intégralement sur cette terre, que je réussis à atteindre tant bien que mal. Quand j'en sors de cette aire, d'ailleurs, pour l'anecdote, j'arrive aux abords de cette aire et il y a la porte de service qui est normalement fermée, qui est ouverte et qui me permet du coup de rejoindre à pied cette station. Il y a un motard qui est là, qui attend et qui me voit débarquer. Il faut imaginer, je suis littéralement, on le voit dans les images, je suis marron de partout. J'ai des petites graines qui se sont collées dans mon t-shirt, dans mes cheveux, partout. À tel point que faut se dire que toute la tenue intégrale est partie à la poubelle directement. C'est-à-dire que j'avais 6 tenues pour un mois, j'en avais plus que 5 au bout de 5-6 jours.
Wow.
Et cette ère où j'arrive, pour l'anecdote, je m'y change. Donc je nettoie mes chaussures, je me nettoie pour être présentable, parce qu'en stop c'est super important d'être présentable, d'avoir une bonne tenue, une bonne image qu'on renvoie. Donc je me retrouve en caleçon sur cette aire, je me change, il y a des trucs qui partent à la poubelle, j'essaye de sauver tant bien que mal, les chaussures elles sont marron, je les frotte, et là je commence à faire mon petit panneau, à faire du stop, et au bout de 5 minutes je capte qu'en fait s'il y a si peu de voitures qui passent là où je suis, c'est parce que c'est une aire qui a été refermée. Donc en fait j'essaye de faire du stop sur un endroit qui est fermé et où les gens ne peuvent pas s'arrêter parce qu'il y a des panneaux de chantier qui empêchent les gens de s'arrêter. Et là je me rends compte, je fais « Ah, problème !» Et du coup là je me dis « Mais en fait il n'y a pas d'autre solution, je remonte de 200 mètres et en fait je suis allé directement à la barrière de péage.
Oui.
Et à la barrière de péage, je montrais une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche et je balayais du regard à peu près deux ou trois barrières à droite et deux, trois barrières à gauche. Il y a beaucoup de gens qui me disaient c'est dangereux, faites pas ça, etc. et tout, mais j'étais obligé, j'avais pas d'autre choix. Et heureusement, au bout de quelques minutes seulement, il y a quelqu'un qui m'a vu et qui m'a pris en stop et il m'a avancé que d'un kilomètre ou deux. C'est pas beaucoup en termes de distance sur les 6000, c'est même celui qui m'a fait le moins avancer. Mais derrière, il m'a sorti d'une zone de danger pour m'amener sur une aire d'autoroute. Et de cette aire d'autoroute de Toulouse, je suis allé à Montpellier. Et de Montpellier, je suis arrivé à Orange. Et le soir, j'avais terminé à Orange et le matin, j'étais à Toulouse.
Eh oui, c'était impressionnant ça.
Oui, c'était vraiment un souvenir difficile et que les gens m'ont partagé. Si j'en avais un deuxième, c'est plus sur la fin, c'est-à-dire que faire du stop... Oui, on peut se dire, oui, c'est difficile, oui, il faut être patient, oui, on attend. Mais se faire un exercice où on fait 28 jours de stop consécutif, quasiment avec quelques jours off par-ci par-là, mais 28 jours où on est dans l'incertitude, pas savoir où on va dormir, pas savoir où on va aller, pas savoir ce qu'on va faire. Toujours, en fait, garder le sourire 8 heures, 10 heures par jour pour demander aux gens, prendre des noms. Et en fait, faut tout le temps, même quand on est au bord de la route avec sa pancarte, en fait, faut tout le temps faire un peu le clown, quoi. Être avec sa pancarte, essayer de danser, essayer de sourire, essayer de, d'être jovial pour que les gens se disent, tiens, cette personne me renvoie une bonne image, donc peut-être je vais m'arrêter pour discuter avec lui ou avec elle.
Alors là, on a parlé des moments durs, hein, mais t'as fait des belles rencontres.
Ah ouais.
T'en as fait énormément. Est-ce que tu peux nous en dire, deux ou trois comme ça, qui te viennent, des personnes qui t'ont accueilli chez eux, d'autres qui t'ont ouvert, je sais pas, que t'as pu découvrir la nourriture, des choses que tu as adorées.
Alors, c'est vrai qu'il y en a eu énormément des rencontres. Déjà, sur la catégorie des personnes qui m'ont prise en stop, j'ai deux rencontres particulièrement qui me viennent en tête. La première, c'est le couple, le premier qui m'a pris jusqu'à Tolède, parce que vraiment j'ai passé toute la journée avec eux, vu qu'ils ont accepté vers 10h du matin et je suis resté avec eux jusqu'à 18-19h. Et c'était vraiment fou parce que on a fait le trajet ensemble, le midi on a mangé ensemble, l'après-midi on a fait le trajet ensemble, le soir on a visité Tolède ensemble, ils m'ont dit on va t'amener sur un petit point de vue où on voit bien la ville, tout ça. Et génial. En fait, ça faisait vraiment l'impression d'être leur fils adoptif sur la journée. C'était vraiment ça, c'est-à-dire on se balade. On prend des photos du lieu, on prend des photos ensemble, et tout. Et quand c'est la fin de journée, devoir se dire au revoir et garder les contacts et dire oh, quand tu repasses à Lisbonne, tu viens nous dire bonjour à tout prix, tout ça, et oui, et qui m'envoyait des messages tous les quelques jours. Alors t'es où? Alors ça avance, tout ça. Donc il y a eux qui me revient en premier. Et il y en a d'autres aussi, mais un autre couple aussi que j'ai rencontré. Alors ils m'ont amené jusqu'à Carlo Vivari en République tchèque, et je les ai rencontrés, il me semble, en Allemagne. Et pour l'anecdote, ça fait au moins une heure que je cherche à avoir une voiture que j'en ai pas. Donc je déprime, je me dis, bon, on va aller manger et après ça repartira parce qu'il est assez tôt. Et je me dis, faut pas que je mange en même temps que tout le monde, faut que je mange en décalé pour avoir les timings ou quand les gens vont sortir de table, je puisse être déjà là opérationnel et monter avec eux. Donc je mange un fast-food qui est sur la station. Et en fait, au moment où je vais pour repartir à l'endroit où je vais faire du stop, je croise des gens dans l'autre sens et avec 3 secondes de délai et de latence, j'entends que c'était du français. Du coup, je me retourne et là, je commence à venir vers eux, à discuter. Je leur dis oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'ai entendu que vous parliez français. On est en Allemagne, hein, c'est drôle. Je vous explique mon projet. Je traverse l'Europe en stop. J'essaie d'aller vers l'est. Alors voilà, si vous pourriez m'aider. Et vraiment, en fait, le fait de rencontrer des Français à l'étranger, ça simplifie énormément. Ouais. Et ils avaient jamais trop pris de gens en stop. Ils étaient là en mode bon, on te connaît pas trop et tout. Mais ils m'ont dit après coup, à la fin. Je sais pas, quand t'es venu discuter, t'étais good vibe, t'avais une bonne tête, t'étais souriant, avenant et tout. Donc c'est pour ça on s'est dit oui. Et c'est un couple qui habite Namur, donc Belgique, qui était en Allemagne et qui allait donc à Carlo Vivari. Et eux, pareil, on fait tout le trajet ensemble, on discute énormément. Le soir, ils me posent et ils me disent « Ah, on se revoit demain et tout ». Je leur dis « Oui, oui, avec grand plaisir ». Ils disent « Oui, mais on se revoit vraiment ». J'étais là « Oui, oui, on va vraiment se revoir ». Et le lendemain, on s'est revu, on a bu un coup ensemble, on a rediscuté. Ils arrêtaient pas de me dire « Ah, vraiment, faut que tu passes à Namur, nous faire un coucou et tout. On t'héberge, y a pas de souci. On te fera visiter la ville, tout ça. Donc, j'aimerais le faire dans l'année 2024-2025, quoi, d'aller leur rendre visite et leur faire un coucou. Et voilà. Donc, ça, c'est les deux rencontres les plus marquantes, je pense, que j'ai sur les gens qui m'ont pris en stop. Après, il y a toutes ces petites rencontres aussi le long du trajet. Mmh. C'est-à-dire les gens en auberge de jeunesse avec qui j'ai sympathisé. Ça peut être des Français, parfois c'était des gens qui n'étaient pas Français. Aussi une rencontre assez originale, ça a été aux Pays-Bas, Amsterdam. Il y a une fille que j'ai rencontrée qui avait 30-32 ans, qui venait du Kazakhstan, qui était en ingénieur en énergie. Et elle connaissait pas le concept de stop. Donc dans son pays, ça n'existe pas, elle ne sait pas ce que c'est le stop. Je lui explique, elle dit « Comment ça, tu lèves le pouce, c'est gratuit, tu montes dans la voiture des gens ?» Ça ressemble à... C'est bizarre, ton histoire. Et en fait, je fais sa connaissance l'après-midi. Et le soir, alors qu'on boit un coup et tout, et qu'on discute, je fais, au fait, tu dois aller en Grèce. Elle me dit, oui, je dois prendre un avion pour aller en Grèce. Je vais le prendre d'Amsterdam, tout ça, je sais pas, dans quelques jours, tout ça. Et je lui dis, vas-y, moi, je vais vers Francfort. Francfort, il y a un aéroport. Viens, demain, on part en stop, et on va jusqu'à Francfort, et toi, tu prends ton avion pour la Grèce, et moi, je continue mon aventure. Mais moi, des trucs comme ça, j'en propose souvent aux gens, mais il y a très peu de gens qui sont aventureux et qui acceptent de partir sur un coup de tête, sur des projets comme ça. Et elle me répond oui. Et ça, j'étais pas prêt à ce qu'elle réponde oui. Et du coup, bah, le soir, je m'allonge dans mon lit, je me dis, bon, elle a répondu oui, les problèmes, demain, je l'emmène. Et du coup, pour la petite anecdote, le lendemain, on devait partir à 11h, elle voulait aller au sport avant, je dis pas de souci, tu vas au sport, on part à 11h de base, je pars plus vers 8h30, 9h.
Bah oui.
11h, ça fait tard, c'est pas grave. À 11h, je la retrouve, parce qu'on était dans la même chambre, c'était une chambre de 6. Et elle me dit, ah, écoute, Lucas, mon réveil vient juste de sonner, est-ce que je peux quand même aller au sport? Je fais, bon, bah, vas-y, va au sport. Et donc, on va au sport. Et elle me fait, ah ouais, mais faut qu'on mange un petit coup avant de partir. Donc, on brunch, on fait du sport. Il est 13h. Et à 13h, ou 13h30, on attaque enfin le stop. Et là, je me dis, mais c'est mort. Et au final, ben, on n'est pas allé jusqu'à Francfort le jour même. De toute façon, on avait en gros 3 jours. C'est-à-dire, on avait jour 1, jour 2 et jour 3, elle avait son avion. Jour 1, on part à 13h30. Et là, on arrive jusqu'à Essen, qui est une ville en Allemagne, où après 5 transports, on arrive, 5 voitures qui nous ont prises, il faut faire un petit détour, tout ça, on atteint l'Allemagne. Et en fait, la dernière voiture qui nous prend, ça qui est drôle aussi dans les hasards de la vie, c'est que l'avant-dernière voiture qui nous prend est une voiture où elle parlait plusieurs langues, au moins 5 langues, et elle parlait la langue du chauffeur. Je sais plus s'il venait du Kazakhstan ou un pays limitrophe, et elle parlait aussi également la langue. Donc il parle dans la même langue, ça sympathise directement, il accepte de nous prendre en stop et il nous amène jusqu'à une station. À cette station on arrive, il y a un camion qui va à Francfort, mais il a qu'une place donc il peut pas nous prendre, on est deux. C'est ça aussi le désavantage d'être deux.
Oui.
Et elle a eu un peu son joker, où elle parle la langue de quelqu'un, et là c'est la première fois que j'ai croisé des Français, il me semble, ou deuxième. Et je leur ai dit, voilà, vous êtes français, oh, je suis français, on s'est lancé un défi, on est deux, s'il vous plaît, etc. Et ils m'ont dit, oh, c'est trop bien, nous, on s'arrête à Essen ce soir et demain, on va à Francfort pour aller chercher notre fils à l'aéroport.
Ah, excellent!
Et du coup, j'étais en mode, nickel. Et du coup, bah, le lendemain, on a été jusqu'à Francfort et moi, j'ai continué ma route et elle a continué la sienne.
C'est beau, ça. Qu'est-ce que t'en penses, Hugo?
J'avoue que c'est franchement fantastique. Après, moi, j'avais une question. Comment t'as fait vis-à-vis des langues? Est-ce que tu parles plusieurs langues? Est-ce que tu t'es tout le temps débrouillé comme on t'a pu?
Alors, je parle bien l'anglais. C'est-à-dire, au niveau de mon cursus et de mes études, je comprends très bien l'anglais. J'arrive à m'exprimer avec quelques fautes, mais les gens comprennent. L'espagnol, bah, j'ai jamais été très bon en espagnol. Mais bizarrement, quand j'ai été en Espagne, j'ai jamais parlé aussi bien espagnol. En fait, je pense qu'il y a un peu ce truc où le cerveau, il se met en mode un peu survie.
En fonction du pays.
C'est ça.
Immersion.
Immersion et survie, c'est-à-dire que chez quelqu'un qui parle pas bien anglais, qui parle pas français, il parle que espagnol, il t'a pris dans sa voiture et il t'amène jusqu'à Toulouse, je lui fais la discussion en espagnol s'il faut. Et je me suis mis à très bien comprendre l'espagnol en instinct de survie et à le communiquer, alors avec des petits mots, mes petites phrases et tout, mais on a tenu la discussion. Et ça, c'était fou. Et pour les autres langues, faut savoir que sur les pays de l'Est, ils parlent beaucoup mieux russe qu'anglais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais Google Traduction. Et en fait, alors j'avais plusieurs approches. Pour approcher les gens avant de monter dans leur voiture, j'avais une note dans mon téléphone et j'avais traduit le message du jour en fonction de la destination que j'essayais d'atteindre dans 3 ou 4 langues. Donc anglais plus le pays dans lequel j'étais, plus russe, plus le prochain pays, au cas où les gens fassent des longues distances. Donc par exemple, j'avais, ça m'est déjà arrivé d'avoir le texte quand j'étais vers les pays de l'Est, lettonien, lituanien, russe et anglais. Donc il y a les 4 versions avec les 4 drapeaux les unes sous les autres. En fonction de si la personne elle me dit « désolé, je parle russe », je scrolle un peu, tac, je monte le russe, et il comprend directement. Donc, désolé, je parle lituanien, lettonien. Il y a des solutions à tous les problèmes. Et après, une fois que t'es dans la voiture et que la personne, du coup, parle pas ta langue, là, j'avais Google Traduction d'activer et je parlais en français et ça traduisait dans sa langue. Donc, russe, polonais, lituanien, lettonien. Et lui, après, parlait dans sa langue et ça me le retraduisait en français. Donc ça, c'était assez fou au niveau technologique.
Ouais.
Et ça permettait de se comprendre, d'échanger et d'avoir des discussions assez fortes. Il y en a une qui me revient le seul camion que j'ai pris. Poids lourd, il m'a pris dans les pays de l'Est, je sais plus le trajet qu'on a fait ensemble, et c'est un Ukrainien, et en fait sa famille, donc sa femme et ses enfants étaient allés côté Pologne, de l'autre côté de la frontière, et lui voulait pas lâcher la maison, donc il était toujours du côté Ukraine, et il était dans un état d'esprit où bah, il continue de travailler, mais tous les jours quand il rentre et qu'il est chez lui, il entend les bombes qui explosent pas très loin, il entend les explosions et il dit « non mais je veux pas non plus lâcher ma maison ». Donc en fait c'est des gens qui vivent avec un peu la mort autour d'eux qui tourne, tu vois, et qui sont là en mode bah, « je travaille parce qu'il faut que je nourrisse ma famille, mais ce soir j'entrerai pas en Pologne, je rentre chez moi en Ukraine et j'assume d'être en Ukraine et je reste chez moi et je lâche pas ma maison ». Même si ça explose tout autour, donc c'est des moments qui sont assez forts et intenses. Il y en a eu plusieurs des rencontres comme ça, assez poignantes.
Ouais, des rencontres émouvantes et où t'as pris une dose d'émotion et t'as, Je te connais sensible, donc je sais que des fois la corde.
Bah la rencontre, je pense la plus dure que j'ai eue, c'était à Tolède en Espagne. Et en fait, c'est quand j'arrive dans l'auberge de jeunesse. Donc, faut pour mettre dans le contexte, c'est le premier jour que je viens faire du stop. J'arrive dans ma première nouvelle ville après Lisbonne. Et je trouve une auberge de jeunesse. Je prends ma chambre. Il y a, c'est une chambre avec quatre lits, donc une chambre de quatre. Et il y a quelqu'un qui m'accueille. Il a une bouteille de Fanta avec des bonbons. Il me dit, ah, tu veux du Fanta, tu veux des bonbons. Donc il m'accueille. J'en prends un petit peu par courtoisie, même s'il sent plus. Je fais, oh, merci et tout. Et là, on commence à discuter. Et là, en fait, je capte en cinq minutes sa situation. De ce qu'il m'explique, c'est que c'est quelqu'un qui vient de Roumanie, qui a été mis trois fois à la porte par ses parents. Donc deux fois il est revenu et trois fois il est parti. Donc là il n'y est pas. Il a vécu six mois à la rue. Il a plus d'argent. Il me dit ah mais c'était pas des bonbons, c'était un paquet de céréales. Son paquet de céréales et sa bouteille de Fanta doivent lui tenir trois jours. Il a limite plus de quoi s'acheter à manger. Et il y a un moment qui est assez fort, c'est qu'on est en train de discuter. Et pendant la discussion, à un moment il se stoppe de discuter, il se lève du lit, il ouvre la fenêtre, il va vers la fenêtre, il commence à se basculer et il s'arrête net. Et il me dit je pourrais sauter. Mais je le ferai pas aujourd'hui. Et il rebascule dans l'autre sens et il revient s'asseoir comme si de rien n'était. Et là, je fais, waouh. En fait, il a tellement plus de solutions. Et en fait, il est aussi dans une spirale où il a plus d'argent, il a pas de papier, il a perdu son passeport, sa carte d'identité. Le seul moyen qu'il en ait de nouveau, c'est qu'il reparte en Roumanie. Mais du coup, il peut pas avoir de contrat de travail ici parce qu'il a pas d'identité. Il peut pas prendre un avion pour rentrer parce qu'il a pas de papier d'identité. Et il se retrouve dans une boucle où il est enfermé ici dans cette ville. Et à discuter avec moi, à être à deux doigts de se basculer et à te dire aussi, bah, ça se trouve, en fait, on sentait une absence de vie. C'est-à-dire qu'il était en mode, bah, je sais pas si je serai encore en vie à la fin de la semaine, quoi. Et ça, quand tu rencontres quelqu'un comme ça et que la première réflexe, quand t'es rentré, c'est de te donner à manger, à boire et tout, c'est là que tu fais, waouh. Moi, ce que j'ai fait, c'est que tous les gâteaux secs que j'avais, je lui ai donné 90%, il me restait deux trucs, histoire d'avoir un truc, parce que j'étais en mode, c'est pas grave, j'en rachèterai plus tard, j'en garde juste un tout petit peu pour demain. Et lui, ça va lui tenir plusieurs jours de plus, et ça lui fera toujours un peu plus à manger. Et au départ, il était là, dans l'esprit, non, mais je veux pas, etc. Il était gêné d'accepter, et je lui disais, non, mais t'inquiète, moi, je pourrais en racheter sur le trajet et tout. Je t'aide à ma façon comme je peux, et courage pour la suite. Et voilà, je pense que ça a été la rencontre la plus difficile du trajet, ouais.
Qu'entend-on ça, Hugo?
Ouais, ça fout des frissons, des émotions. C'est vrai que ce genre de voyage permet de rencontrer des personnes de tout type et permet de faire des rencontres fantastiques. C'est vrai que pour moi, quand je pense autostop, pour moi, c'est vraiment un truc de fada, en fait, de faire ça. C'est-à-dire de partir dans une aventure comme ça où quand on voit des fois les actualités, moi qui suis étudiant un journaliste, où on voit des gens se faire kidnapper, se faire tuer et tout, de me dire que lui, il a traversé toute l'Europe en autostop, c'est chapeau bas, quoi, bravo. Mais c'est vrai que, ouais, moi, c'est pas un truc que j'aurais pu faire parce que je me serais dit, en mode, à chaque moment, en fait, tu sais pas qui tu rencontres, en fait. Tu vois, le mec qui aurait pu sauter, ça aurait pu être un mec qui avait des mauvaises intentions et on y serait passé, quoi. Donc c'est vrai que, ouais, d'un côté je me dis c'est incroyable ce que t'as fait, mais de l'autre je me dis je ferai jamais ça parce que j'aurais trop peur qu'il y ait une chose qui se passe mal ou autre, même si d'un côté tu rencontres des gens fantastiques, de l'autre à tout moment, comme tu connais pas les personnes et en plus comme des fois tu parles pas trop la langue, il peut se passer une chose que t'as pas envie qu'il se passe, quoi.
Bah, ça fait partie du pari et du jeu qui est pris au début, c'est-à-dire que... Ce qu'on m'a dit aussi, c'est que si tu pars en étant très positif, en fait, tu attires ce que tu renvoies. Et si tu renvoies quelque chose de très confiant, de très positif, de très souriant, tu vas un peu attirer ces personnes-là et les gens qui ont des mauvaises intentions peuvent avoir beaucoup plus de mal à vouloir te faire du mal parce qu'ils te sentent très solide sur tes appuis et ont plus de facilité à aller sur quelqu'un qui aura des appuis moins solides ou qui est moins confiant sur ce qu'il fait, etc. Donc même si tu l'es pas intérieurement, si tu renvoies cette image-là, ça te sécurise un petit peu plus, même s'il faut pas le négliger. Il y a des choses et des histoires qui arrivent et on peut être au mauvais endroit, au mauvais moment et renvoyer toute la confiance qu'on veut, c'est pas pour autant qu'il se passera rien. Mais ouais, c'est vrai que de ce côté-là, ça faisait partie du jeu, donc je conçois que c'est une forme de folie, ça y a pas de souci.
On te l'a dit hein, plusieurs fois. Hein. Je crois que fou, dingue. Ouais. Avant que tu partes, tout le monde pratiquement te le disait, ouais, même ta famille.
Ouais, non, mais ils auraient préféré que je finisse ingénieur en aérospatial, ça aurait été plus stable. Et je leur disais, enfin, même les gens que je rencontrais quand je sortais boire un coup dans Toulouse, dans des bars, tout ça, qui me disaient, c'est limite inconscient. Mais je leur disais, oui, mais Ça fait partie du jeu et c'est un risque que je suis prêt à prendre. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je monte dans la voiture d'un inconnu, je lui confie ma vie. Et ça peut très bien s'arrêter. Et c'est un truc avec lequel il faut être... Ça fait bizarre dit comme ça, mais ok de se dire mais on peut pas tout contrôler. Mmh. On peut choisir la personne à qui on va confier sa vie, on peut pas choisir comment ça va se dérouler par la suite. Et là-dessus, il y en a une rencontre particulière où il y a une des 32 voitures qui m'a prise en stop. C'est une voiture qui m'a prise en stop avant que je lève ma pancarte. C'est-à-dire que je me suis mis à un endroit stratégique, c'est un rond-point juste avant une bretelle d'insertion de voie rapide. Et là, je pose mon sac devant moi, je sors ma pancarte, je mets mon téléphone par terre posé sur le sac et je commence à vouloir du coup me filmer et faire mes plans d'illustration parce qu'il y a pas mal de plans d'illustration où je montre mes pancartes. Et sur ce plan d'illustration, quand je vais pour le tourner, que j'ai ma pancarte dans les mains et que je vais pour lever la pancarte, il y a une voiture qui s'arrête à mon niveau pour me prendre en stop. Mais la personne ne sait pas où je vais. Et il y a une autre voiture qui arrive derrière lui et lui s'est arrêté pour me prendre. Je me dis, en fait, ça va très très vite dans ma tête, mais je me dis en moins d'une seconde, ok, il y a une voiture qui s'arrête, il y en a une autre qui arrive derrière, donc il faut que je réfléchisse très vite. La personne ne sait pas où je vais, je viens juste de commencer à faire du stop, il est tôt le matin. Est-ce que je prends cette voiture? Est-ce que je lui dis non? Est-ce que je lui demande où il va? Mais la personne derrière va s'impatienter. Et là, à l'instinct, j'ai pris mon sac, j'ai couru vers la voiture, je suis monté dedans, et il a roulé. Et après, on a commencé à discuter, sauf qu'il parlait pas anglais. Donc là, tu commences à passer, ça a mis bien 3, 4, 5 minutes à comprendre où il allait et à se mettre d'accord. Mais c'est 3, 4, 5 minutes qui paraissent très très longues parce que tu roules dans un pays dont tu parles pas la langue, que tu connais pas, avec quelqu'un que tu ne connais pas, qui parle pas anglais, qui est assez austère et qui est pas jovial en mode « Hey, how are you ?» et qui est juste en mode « Je conduis et aucune expression sur le visage. » Tu dis « Oh là là, est-ce que c'est la voiture que j'aurais pas dû prendre ?»
Et au final, est-ce que j'ai fait le mauvais choix?
Et au final, bah, il allait dans la bonne direction. Il me raconte qu'il prend souvent des gens en stop. Et on a fait au final 60 km ensemble, je crois. Et on a avancé sur le trajet.
Mais ça t'est arrivé des fois sur des trajets d'avoir des blancs monstrueux avec des gens qui n'avaient pas trop envie de faire la discussion ou juste...
Ouais. Ouais. Ça, clairement, il y en a. Bah, en fait, au départ, j'essayais beaucoup de combler le vide dans le sens où je discutais beaucoup parce que dans ma tête, j'avais cette forme de... redevance, c'est-à-dire que je me disais si la personne me prend gratuitement dans sa voiture sur plusieurs centaines de kilomètres, si elle a envie de discuter, le minimum que je puisse faire déjà c'est répondre, mais c'est aussi alimenter la discussion pour m'intéresser à eux. De toute façon, j'étais curieux de base et c'est aussi me dire pas être en mode taxi, je me tape une sieste à l'arrière et juste vous me réveillez quand on arrive. Mais plus j'avançais vers la fin, plus c'était difficile de tenir la discussion.
T'es arrivé de dormir en voiture ?
J'ai jamais dormi, mais de pas parler, ouais, ça m'est arrivé. Mais c'était des gens où tu sentais aussi qu'ils, soit c'était un couple, et donc ils avaient des discussions entre eux dans leur langue. Donc moi, je comprenais rien, et du coup, j'étais dans ma bulle. Soit on discute un peu et tout, et quand on a fini de faire le tour du sujet, ben, on parle plus, et c'est moi qui balance des phrases toutes les 20 minutes, en mode, oh, c'est joli ça, ou oh, c'est sympa ça, oh, c'est quelle ville ça. Et juste pour essayer de relancer un petit peu, et que la personne te réponde deux phrases. Bon, même si elle relance pas la discussion derrière, tu vois, tu relances un petit peu pour capter l'attention et faire en sorte que ça se maintienne. Mais ouais, c'est plus j'allais vers l'Est, moins j'avais d'énergie pour discuter, mais j'essayais toujours de le faire quand même. Et plus les gens étaient parfois un peu, pas moins ouverts à la discussion, mais juste en mode, bah vas-y, enfin, on connaît le stop, ok, on partage un bout de la route ensemble, c'est cool, on a discuté un peu, mais voilà, t'inquiète pas, te fais pas de soucis, t'es pas obligé de discuter tout le trajet.
On est le dernier jour, Tata. Dernière voiture de stop et dans quelques kilomètres t'arrives au point de destination. C'est quoi ta pensée quand t'es dans la voiture et que tu te dis oh, j'ai réussi mon défi?
Eh ben c'est un grand soulagement. Déjà pour retracer vite fait cette dernière journée, elle démarre à Riga et à Riga je pense à un endroit pour faire du stop, j'y vais, je tente. En fait, c'est un endroit où il y a plusieurs bretelles d'insertion. J'en tente une, ça marche pas, j'en tente une deuxième, ça marche pas. Il y a une longue route droite qui amène vers la voie rapide. Et les voitures estoniennes, sur leur plaque d'immatriculation, il y a EST. Mmh. Donc, comme je suis à Riga, je me dis, toutes les voitures où je vois EST, il y a trois grandes villes en Estonie. Il y a Pärnu, Tartu et Tallinn. Donc... statistiquement, on va dire, il y avait peut-être 90% des chances que les gens aillent dans une de ces trois villes, et peut-être dans les 90%, il y avait 50% sur Tallinn en Estonie. Et chaque voiture que je vois passer me dit, est un tout droit vers la victoire et vers ce que je veux faire. Et donc, bah, j'en vois passer, ils s'arrêtent pas, ils me prennent pas, je suis pas sur le bon côté de la route, mais je peux pas être de l'autre côté parce qu'on est entre les deux voies, du coup, c'est toujours la même configuration, en fait, c'est la voie de gauche qui va en Estonie, la voie de droite qui redescend dans la ville.
Tu peux pas traverser.
Bah, en fait, je peux traverser, aller de leur côté, mais je suis, en fait, au milieu des deux voies, au milieu de la route, quoi, littéralement.
Ouais, donc c'est dangereux.
Ah oui, c'est dangereux, les voitures peuvent pas s'arrêter. Donc le seul moyen après, c'est quand il y a un feu rouge, je remonte les voitures. Mais t'imagines, tu remontes les voitures et tu essaies de négocier avec eux en 10 secondes. Écoute, je vais monter dans ta voiture et on va partir ensemble en Estonie. Ils te regardent, ils font non merci. Et là, en fait, à la station essence, qui est du coup ici, les gens ils disent non, je reste en ville. Et là, je vais aux côtés du, il y a un gonfleur de pneus et je vais discuter avec quelqu'un et je lui explique voilà tout ça. Il me dit ah, ouais si tu veux, mais nous on va pas en Estonie, on va à la frontière. Et je regarde sur la map, c'est un tout petit village paumé qui est frontalier. Et moi, les petits villages frontaliers, bon, d'un côté, c'est trop bien parce que t'as le village d'après, enfin, le pays d'après qui est juste là. Mais d'un autre côté, je me rappelais les deux traumas d'avant où j'ai passé 24 heures, je me suis dit, ouf, on est le 26, je crois, à ce moment-là, ou le 25, et j'ai mon vol retour le 29.
T'es en avance, mais faut faire attention.
Trop. Voilà, c'est ça. Et du coup, bah, je leur dis oui, je verrai après. Et en fait, je capte sur le trajet que là où ils vont faire des courses et c'est un peu comme nous quand on va en Espagne, c'est-à-dire que c'est parce que c'est moins cher.
Pas de la case.
Voilà, exactement. C'est parce que c'est moins cher et c'est frontalier avec l'Estonie. Et du coup, j'y vais avec eux, ils vont faire des courses en fait pour dans un an le mariage de leur fille et ils me laissent sur le parking et en fait, c'est vraiment le village qui est limitrophe avec l'Estonie et là je vois je me dis que c'est ça va être gagné parce que c'est mieux qu'une station essence. Il y a des dizaines et des dizaines de voitures qui sont là, qui viennent et qui repartent, qui font leurs courses. Et les gens, après, qui repartent dans les petits pays limitrophes. Mais il y en a qui font demi-tour, mais il y en a qui vont en Estonie. Et il y a une voiture qui me dit, on va à Tartu. Et j'hésite à insister un peu pour monter avec eux. C'est pas la bonne ville, mais c'est la bonne direction. Et ils veulent pas, ils viennent de se taper 10 heures de route, ils sont fatigués, ils me renvoient, je fais pas de soucis, tout ça. Et là, je discute avec quelqu'un et je lui dis, je monte mon message en estonien. Il le lit. Et dans mon message, j'avais écrit on va, je vais soit à Tartu ou à Tallinn. Donc c'est les deux villes. Il me dit ok, tu peux monter, mais je sais pas où il va. Et donc je suis en train de faire le tour de la voiture pour monter côté passager. Je me dis est-ce qu'il va à Tartu ou à Tallinn, parce que est-ce que j'ai fini ou pas fini. Et on monte dans la voiture et tout. Et là je lui dis mais du coup vous allez où et tout. Il me dit ah mais je vais à Tallinn. Et c'est là où justement cette émotion de se dire soulagement, c'est la dernière voiture. Il nous reste 2 heures de route je crois parce que c'est un petit pays l'Estonie à traverser. Et il me pose dans un endroit. Il faut savoir que l'Estonie, c'est un pays où j'y suis déjà allé 2 fois en 1 mois. Donc je connais bien ce pays-là. Et je commence à remonter à pied les rues. Je commence à reconnaître les rues. Je commence à reconnaître les quartiers. Et je commence à savoir où je suis. Et je commence à mettre mon GPS et à voir. Et là, j'arrive et je vois cette longue rue droite avec sur le côté gauche les fleuristes. Il y a des fleuristes tout le long. Et ces deux grandes tours de l'ouverture de la partie un peu fortifiée de Tallinn. Et où je me dis, bah, c'est la ligne d'arrivée, quoi. Et quand j'arrive et que je la passe, en fait, je réalise pas. Parce que je pense qu'il y a vraiment un côté de pas réaliser ce qui se passe et qu'on est à la fin. Et je l'ai pas eu la réalisation après. Enfin, c'était tellement l'inertie dans le truc.
Tu l'as eu quelques semaines plus tard, la réalisation. Ouais, quand les gens ont commencé à entendre parler et tout.
Ouais, que ça a été fait.
On avait parlé et t'as dit, ah oui, en fait, j'ai réussi. Et je suis bien arrivé où je voulais aller.
C'est ça, c'est en fait on est tellement dans une inertie qu'on s'en rend pas compte. Et quand je suis rentré le jeudi en France, le lundi, mardi, mercredi qui a suivi, j'ai fait que dormir.
Parce qu'on s'est vu juste après.
Le week-end il y a eu le Rose Festival et après je dormi parce que mon corps il a lâché clairement. Et il y a plusieurs moments où sur le trajet j'avais les larmes qui montaient parce que des gens acceptaient de me prendre en stop parce qu'il y avait une belle rencontre, parce qu'il y avait quelque chose et tout. Et je me retenais. Et je me suis dit, quand je vais arriver, je pense, à la ligne d'arrivée, je vais m'effondrer. Et au final, je me suis pas effondré. Genre, c'était vraiment ce côté non-réalisation de, ah, c'est fait. Et le lendemain, sur le lendemain, un peu de repos, un peu de sortie, des rencontres avec des Français, des Françaises, des locaux, et c'était sympa. Et après, retour en France.
Félicitations pour ce beau parcours, pour avoir réalisé ton défi, que tu voulais absolument faire. Je me souviens, moi, quand tu m'as dit ça, j'ai dit, mais il est fou. Je te l'avais dit d'ailleurs. Je t'avais dit, mais il est fou. Dans quoi il s'embarque? Et en même temps, j'étais hyper admirative. Parce que je trouvais que c'était beau. T'étais force de conviction. Et tu nous as permis de vivre cet événement avec toi. Et je tenais à faire ce retour avec toi à la radio. Parce que je trouve que, il faut se lancer des défis dans la vie. Il faut croire en ses rêves. Croire. Et oser, c'est
croyez
ça
en vous et oser,
croyez
exactement.
En vous et oser.
C'est la phrase que je dis à la fin de tous mes contenus, croyez en vous et oser, c'était Lucas Brasier. Et il y en a beaucoup qui me le ressortent quand je croise des abonnés ou des gens qui regardent un peu mes contenus, avec le fait que j'ai toujours un pull rouge, c'est des phrases qui les marquent. Et ouais, bah là, je travaille justement actuellement sur l'écriture d'un livre pour résumer un peu tout ça. Parce qu'il y a plein, en fait, comme j'ai fait des vlogs d'une minute, les gens voient en une minute le résumé de 24 heures.
Mais oui.
Mais il y a plein de choses où, en fait, tous les jours, je faisais des vocaux de 10, 15 minutes dans mon téléphone où je racontais ma journée, les hauts, les bas. Il y a plein de choses que j'ai pas racontées dans les vlogs. Typiquement, une anecdote là que je peux vous donner, c'est que quand j'étais, c'était quel pays? Je crois que c'était la République, c'était à Prague, donc la République tchèque. Je me suis fait mordre par le chien d'un SDF.
Ah oui.
C'est la première fois de ma vie que je me faisais mordre par un chien, mais le problème c'est qu'il m'a mordu au niveau du bras gauche. Et juste je me baladais. Enfin, en plus, je mange dans un resto, enfin fast-food le soir, etc. Il me reste des frites. Je me dis bonne action, je vais les donner à quelqu'un qui a pas à manger dans la rue, etc. Je me balade avec mes frites dans la main gauche. Et là, je croise la route est en travaux, donc il y a le trottoir qui est juste l'épaisseur du trottoir et on peut pas aller sur la route. Je croise un SDF avec son chien, je le regarde, je me dis ce que je lui donne, je sais pas. Et au moment où je passe, il y a le chien, il lâche un seau et un croc sur mon bras. Et il tire son chien tant bien que mal et tout, il part. Et là, je commence à avoir le bras qui tremble et tout, et je me dis oh là 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 là, s'il m'a filé une maladie son chien, parce qu'on sait jamais, etc. Genre ça met fin au voyage juste parce que je voulais donner des frites à un SDF et on s'est croisé au mauvais endroit au mauvais moment. Et dans la continuité de ne pas faire des choses responsables, je vais me dire bah j'attends. Tout le monde, enfin j'en discute avec deux personnes, ils me disent ouais non, faut aller voir à l'hôpital. On sait jamais s'il a la rage, tu peux mourir. Je dis oui, mais si je vais à l'hôpital et que j'ai la rage, je peux pas finir mon voyage Eurostop. Et ils me disent oui, mais si t'as la rage et que t'y vas pas, tu meurs. Je fais oui, mais je peux pas finir Eurostop. Donc j'ai prié très fort pendant deux jours. J'avais le bras engourdi, comme avec des fourmis et tout. Même quand je dormais et tout, il tremblait tout seul, etc. Et au final, pour le moment, je suis encore en vie. Et ça va, c'est passé. Donc ouais, il y a eu des hauts et des bas. On rencontre avec la police aussi, mais tout ça, vous pouvez le lire dans le livre si vous voulez.
Bah, on en reparlera hein, ouais. Quand le livre sera
avec grand
là
plaisir.
Et tout. Tous les projets aussi, avec une certaine Madame Fro.
Oui, Dominique Fro, exactement. Écriture d'un projet de livre aussi avec elle. Donc ouais, il y a pas mal de projets.
Une belle rencontre qui a donné vie...
À plein de projets, plein d'échanges. Je m'occupe maintenant de aussi publier ces publications sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout.
J'ai
donc
ça, ouais.
C'est cool. Non, on échange bien. Quand on se voit sur Paris, c'est sympa. Et voilà. Et en parallèle de tout ça, la sortie du jeu de cartes Confession.
Confession, oui.
C'est ça.
Dont
c'est
on va se prêter aussi, nous, ouais. À une confession.
Bah, avec grand plaisir. Et tout ça, c'est des projets. Je fais que des projets qui me plaisent. Je les développe, je les fais grossir, je les partage sur les réseaux.
Confession, t'as voilà. Déjà eu Julie Gaillet à ton micro.
J'ai eu Julie Gaillet, José Garcia,
Victor Belmondo.
En un côté entrepreneurial, Jean-Pierre Nadir aussi, qui présente qui veut être mon associé. Ouais. Donc ça fait pas mal de belles rencontres déjà pour un début. Et il y en a encore plein à venir. Et j'ai très très hâte de voir les confessions que les personnalités et les personnes nous partageront. Je compte le faire aussi en micro-trottoir dans Toulouse. Donc aller dans la rue avec des inconnus et leur faire tirer une carte et qu'ils racontent une anecdote. La première qui revient avec les cartes. Donc voilà. Et le jeu est parti la semaine dernière pour l'anecdote en impression pour 3000 exemplaires. Et je devrais les recevoir vers décembre, janvier, j'espère vers décembre quand même, mais voilà.
Bah, ce serait bien, oui, pour Noël.
Ouais, avant
pour
Noël.
Pour offrir un jeu confession,
c'est pour ça que là, ça dépend pas de moi.
Ce serait parfait.
Ah, j'espère.
Rappelle-nous, avant de finir, tes réseaux, où on peut te suivre, le site internet, tout ça.
YouTube, Insta, TikTok, LinkedIn, pourquoi pas, mais c'est toujours Lucas Brasier. LucasBrasier.
Merci beaucoup, Lucas.
Avec plaisir, Vanessa.
C'était Chaud Devant, Eurostop, avec Lucas Brasier. Merci beaucoup, Lucas.
Merci beaucoup, Vanessa.
Vrai plaisir, on a hâte de découvrir le livre. Merci, Hugo.
Merci beaucoup, toi aussi.
Et on se retrouve prochainement pour un nouveau défi, Lucas. Hein,
ça marche, mais à la prochaine. It's always tease, tease, tease.